Bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale. C'est un invité qu'on a déjà eu sur l'émission l'an dernier. C'est le maître international Christophe Philippe. Bonjour Christophe.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous les auditeurs.
Donc une émission intéressante cette année 2016, puisqu'on va le voir. Bien sûr, tu organises toujours le tournoi de Nancy, on va en parler, avec une belle édition 2016. Mais tu es aussi devenu directeur technique national de la Fédération Française d'Échecs. Et alors tu le faisais déjà, tu t'occupais déjà d'organiser des événements pour la fédération, mais notamment cette année, donc tu as une nouvelle dimension avec ce poste de directeur technique. On parlera aussi des championnats de France, alors des championnats de France jeunes, on parlera de Gonfreville 2016, on parlera aussi du championnat de France par équipe, un peu moins parce que c'est un sujet qui nous intéresse moins sur Diagonale TV, mais on parlera aussi du championnat de France 2016 dans une nouvelle ville, je crois qu'il a jamais accueilli.
Oui, c'est tout à fait, Agen, oui.
Voilà, Agen, et longuement, bien sûr, ça va être très très intéressant. Alors tout d'abord, un petit bilan, parce qu'on est le 7 mars 2016, et un petit bilan sur Nancy, parce que tu sors de l'organisation de ce fameux tournoi que tu organises depuis longtemps. Ça fait combien de temps?
Alors oui, c'était la 14e édition. Ouais. Et c'est un tournoi que j'ai créé en 2003 avec le conseil, ça s'appelait conseil général à l'époque, maintenant c'est conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Et petit à petit il a évolué et puis il est devenu un bon tournoi de référence nationale, internationale même on peut dire un peu. Et cette année j'avais un peu moins de temps pour l'organiser que d'habitude suite à ce dont on va parler après. Mais il s'est quand même très bien déroulé en fait, hein, très bien, aucun souci particulier. Le tournoi était très sympa, c'est toujours un peu l'événement phare pour la médiatisation. Et le tournoi, cette année, j'avais choisi de faire jouer 5 très fortes joueuses contre 5 très forts joueurs dans le tournoi des grands maîtres. Voilà.
Oui, alors c'est, effectivement, ça c'était un point vraiment intéressant, c'est-à-dire que c'est assez rare d'avoir la volonté d'organiser un tournoi mixte avec un niveau assez homogène entre filles et garçons, même si finalement les garçons avaient quand même un niveau un peu supérieur à celui des filles quand même.
Oui, pour des raisons pratiques et puis aussi tout simplement financières, c'est difficile d'avoir des filles très fortes, surtout qu'il y avait une Coupe du Monde en même temps. Donc en fait, il y avait beaucoup de joueuses avec lesquelles j'ai eu des contacts, notamment une chinoise très forte, une autre aussi d'Arménie, mais qui était malheureusement prise par la Coupe du Monde. Donc les filles étaient un petit peu moins fortes que les garçons, mais on avait quand même la numéro 1 allemande, Elisabeth Pest, qui a fait un très beau tournoi. Et la surprise, qui était avant-dernière Elo, l'écossaise, Arakamia Grant, qui est grand maître mixte, hein, donc elle a eu 2500 Elo dans le passé, donc elle a été très forte, mais maintenant elle n'a plus que 2300, mais elle a fait un tournoi magnifique, elle a même battu le numéro 1, Alexander Fier, à la dernière ronde.
Oui, effectivement, Arakamia Grant qui a fait un très beau tournoi. Alors, à noter qu'il y avait quand même aussi la double championne de France et vice-championne de France, Nino Maizuradze, qui était là.
Oui, et... donc, qui avait le courage de partir dernier Elo.
Ouais,
et qui a bon, objectivement souffert hein, dans le tournoi. Mais bon, elle n'a jamais lâché, elle s'est quand même battue jusqu'au bout. Mais bon, elle a quand même fini à la dernière place.
Oui, elle a quand même fini, bon, disons, à sa place attendue, parce qu'effectivement, elle faisait pas, elle était quand même dernière élo au départ, mais c'est un résultat honorable quand même. Et c'est un tournoi fermé, il faut noter, hein, c'est quand même pas pareil qu'un
autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y avait trois Français, donc ce tournoi il est toujours en partenariat avec la FFE, hein, ça ne sert rien à voir avec le fait que je sois DTN, ça fait des années que c'est comme ça. Donc quand vous faites un tournoi fermé en France, en fait, vous pouvez demander l'aide de la fédération. Et en contrepartie, la fédération va vous accorder quelques subsides, mais imposer quelques joueurs dans vos tournois, souvent des jeunes maîtres français qui veulent devenir grands maîtres. Et là, cette année, on avait le jeune Quentin Loiseau, qui est très talentueux, donc un émis déjà à 2450 élos. On avait Pierre Bailé, alors lui, c'est un breton là, qui a plus de 2500 élos, qui est en pleine progression dernièrement, là, et qui a failli faire la norme. Et puis, mais bon, il va devenir grand maître très vite, hein, c'est sûr. Et puis, le local, on a toujours le droit de placer un local qui veut devenir grand maître. C'était Nicolas Brunner qui a joué le festival de nombreuses fois.
Oui.
Donc, finalement, la norme n'a pas été réalisée dans le A, elle a été réalisée dans le B par l'Irlandais Stéphane Gessel qui a fait une norme de maître.
Voilà. Mais bon, c'est vrai, effectivement, un très beau tournoi de Pierre Bailé qui est passé un demi-point hein, de la norme, hein, faut quand même le signaler. Hein,
oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bah, de toute façon, il a plus de 1500 euros, ça prouve déjà qu'il a un niveau plus que maître international.
Voilà. Alors, Ce que tu as oublié de dire sur ce festival, il va falloir que j'en parle à ta place, alors du coup, parce que c'est qu'il a une formule un peu spéciale, puisque tous les 2 ans, en fait, enfin tous les ans, tu changes de formule, c'est-à-dire une année, c'est des parties rapides, et l'année d'après, ce sont des parties lentes avec des tournois fermés, et des tournois fermés pour toutes les catégories, c'est-à-dire que là, même si on a 1600 et l'eau, on va faire un tournoi fermé, quoi.
Voilà, ça, en fait, j'avais vu ça aux Pays-Bas, à Vaikanze, dans les années 2000. J'avais été voir Kasparov en 99, 2000 et 2001. Et puis, je m'étais aperçu que dans cette grande salle de jeu avec 500, 600 joueurs, je comprenais pas, je cherchais les appariements, je comprenais pas, je voyais les joueurs par groupe, avec des numéros de table bizarres. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'ils jouaient, en fait, par tournoi fermé, tous. Il n'y avait pas que le A et le B avec les grands champions. Tout le tournoi, en fait, tout le festival se déroulait en tournoi fermé. Alors, eux, c'est un peu différent. Ils jouent que le week-end. Ils jouent des 5 rondes. C'est intéressant, d'ailleurs. À mon avis, on devrait commencer à penser à ça en France. Mais moi, j'ai transposé ça à Nancy. Mais je voulais que tout le monde joue avec les mêmes conditions de jeu. Donc, on a des conditions de jeu magnifiques. Qui est en bois, belle pendue, etc. Une table individuelle par joueur. Mais on joue 9 rondes comme les professionnels, comme le A et le B, le C, le D, le E, etc. jusqu'au P. Et tout le monde joue 9 rondes aux mêmes horaires et un tournoi fermé, quoi. Donc c'est original, effectivement. Les joueurs à 1600 Elo, ils n'ont pas souvent l'occasion de jouer 9 parties contre des autres joueurs à 1600 Elo dans le même tournoi. Et donc ça crée des batailles énormes dans les groupes. Et les joueurs adorent ça, quoi. Ils adorent ça parce qu'en Open, c'est vrai qu'il y a l'effet yo-yo. C'est-à-dire on joue un trop fort pour nous, on se fait éclater, et puis ensuite on joue un enfant avec un tout petit elo, et puis on gagne, etc. Et puis ça peut être un petit peu pénible, il faut attendre la fin pour jouer des parties intéressantes. Alors que dans un tournoi fermé, ce qui est sympa, c'est que vous jouez 9 adversaires de votre elo. Mais bien sûr, il y en a toujours qui gagnent et certains qui perdent, hein, ça ne change rien. À la fin, il y aura du 8 sur 9, et puis c'est un qui va faire 1 sur 9, mais tout le monde a le même elo, quoi.
Et alors, avec cette année, donc, une nouveauté, Diagonal TV bien placé pour en parler, puisque tu as cette année mis l'accent sur la communication de ce tournoi, avec une communication qui n'avait jamais été faite sous cette forme préalablement. Hein.
Alors voilà, en fait, je me suis servi de mon tournoi pour développer une nouvelle application pour la Fédération française, en fait, pour nos gros événements, et c'est-à-dire d'utiliser des webcams, d'utiliser une applette de retransmission, voilà, développée par des gens très forts en informatique comme toi, notamment, qui nous aident, qui aident la Fédération, pour que on ait quelque chose qui soit bien visuel, pratique, bien développé au niveau informatique, et puis pratique pour tout le monde, parce que maintenant, tu sais que tout le monde suit les parties d'échecs sur son téléphone, sur son ordinateur. Et donc, pour la première fois, on a réussi à faire une application qui fonctionne. Elle a parfaitement fonctionné pendant 5 jours. Il y a encore des tests qui vont se faire là, parce que en plus de tout ça, on réussit maintenant à inviter des gens de chez eux, des grands maîtres, par exemple. On invite un grand maître à venir commenter une ronde. Donc là, on a fait un test avec 4 chefs, le numéro 4 français, qui a commenté pendant une matinée une des rondes de Nancy à distance. Hein, donc, mais maintenant, avec les moyens modernes, avec Skype, ça s'est fait sans aucun souci. On est toujours en phase de test. Hein, on va continuer les tests là avec sans doute le 20 mars 2 matchs de Coupe de France. Et puis ensuite, pour Gonfreville, et avec le but ultime d'arriver à la perfection, quasiment à Agen.
Oui, alors pour les auditeurs, notamment les organisateurs de tournois, donc l'applet qui a été mise en place au Festival de Nancy, donc vous pouvez aller sur le site officiel de Nancy, c'est alors l'adresse exacte, ça doit être...
festivalnancy.échec54.org.
Voilà, festivalnancy.échec54.org. Bien sûr, vous aurez le lien sur le podcast Fréquence Diagonale, on le mettra dans la description du podcast. Eh bien, vous avez accès à cette applette. Et alors, cette applette, elle a été un peu adaptée pour Nancy, donc il y a eu du travail supplémentaire de fait. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette applette, elle est sous licence libre. Voilà. Donc, elle est sous licence. Donc, ça, c'est très important.
Qu'est-ce que vous voulez faire pour pouvoir l'améliorer? Et puis, voilà, ça correspond plus à l'esprit Internet de la gratuité aussi. Quoi,
exactement. Voilà. Donc, c'est un outil informatique comme Firefox ou GNU Linux. C'est-à-dire donc où le code est distribué. Donc, vous pouvez utiliser cette applet pour votre propre tournoi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de quoi retransmettre de façon élégante, je dirais, votre événement, vous pouvez le faire avec cette applet et vous pouvez l'améliorer ou la faire améliorer. Alors, il vaut mieux être un peu informaticien pour que ce soit quand même facile, mais vous pouvez quand même améliorer son look, si vous voulez, pour qu'il intègre bien les éléments, vos logos, votre charte graphique, etc. Et tout ce que vous voulez pour retransmettre vos parties. Vous êtes plus dépendant, disons, des sites internationaux qui, jusqu'à présent, retransmettaient les tournois sans que les tournois aient leur propre, finalement, outil de diffusion. Voilà, vous avez ça. Alors, à Nancy aussi, bien sûr, il y avait Diagonal TV. Donc, vous pouvez retrouver sur le site de Nancy, outre les vidéos réalisées notamment par Vincent Vallée, qui a fait de superbes reportages.
Oui, Vincent Vallée, donc c'est notre recrue à la FFE 2015.
Ouais.
Il est venu pour la première fois à Saint-Quentin, pendant que je suis pas de France. Et donc, l'histoire, c'est qu'avant, moi et Sylvain Raveau, notamment, on galérait un petit peu pour médiatiser les choses, faire des vidéos, etc. Mais vous savez, faire une vidéo, c'est facile de prendre un téléphone, même un téléphone maintenant filme correctement. Et puis, après, c'est pas du tout facile à monter quand on n'est pas du métier. Et Vincent Vallée, histoire d'une école, justement, d'audiovisuel, il est très très fort pour tout ça. Il nous fait maintenant des vidéos, vous pouvez regarder sur le site de la Fédération, des vidéos, même sur le site de Nancy, des vidéos fantastiques et de qualité professionnelle. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si dorénavant, il y a pas mal de médias nationaux, des chaînes de télévision locales ou nationales qui nous contactent parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ces vidéos qui sont, c'est sûr, d'une autre facture que ce qu'on faisait il y a quelques années.
Voilà, oui, bien sûr, c'est un support de communication plus efficace qu'un texte, hein, puisque c'est plus facilement accessible. Et voilà, et on a, je crois, je ne sais plus exactement, mais 5 ou 6 ou 7 émissions Diagonal TV, avec notamment toutes les joueuses qui sont passées dans l'émission, et tous les joueurs français, à part Nicolas Brunner, qui malheureusement n'a pas pu passer, parce qu'il n'a pas réussi, un petit exploit qui aurait justifié, disons, de faire une émission spéciale, malheureusement. Mais bon, ça, c'est, je lui ai promis que dès qu'il ferait un exploit, ça sera l'occasion. Voilà. Donc, en tout cas, des analyses disponibles de Nancy avec, je crois, des joueuses qui ont bien analysé. Je crois que c'est des belles émissions avec des belles parties.
Et l'intérêt étant que maintenant, on a réussi à développer, donc avec la petite équipe événement de la Fédération, et on a réussi à développer les trois supports. En fait, on a la partie le match en direct que vous pouvez suivre du boulot, de chez vous. Bien sûr, c'est tous les joueurs vont pas rester 5 heures pour suivre une ronde, mais vous pouvez aller voir. Il y a les parties en direct. Ça, on le faisait déjà, mais maintenant c'est avec des commentaires, avec des invités, etc. C'est vivant. Et puis vous avez un deuxième support, c'est la vidéo de Vincent Vallée. Là, c'est plus en destination du grand public. C'est une vidéo qui raconte le tournoi, qui interviewe des joueurs, ou alors un politique qui passe, ou un partenaire qui passe. Ça, on va dire, c'est la petite vidéo de 3 minutes tous les jours. Et puis, vous avez le troisième support, c'est notamment le tien, Stéphane, Diagonal TV, qui est excellent. Donc là, c'est l'interview plus en profondeur d'un joueur tous les soirs qui nous explique sa partie. Et ça, c'est fantastique. Il y a même un intérêt pédagogique. Dire maintenant, vous pouvez regarder un grand maître qui explique la partie. Bon, généralement, qu'il a gagné. Hein, il vient rarement quand il a perdu. Oui. Généralement, qu'il a gagné dans l'après-midi. Et ça, c'est juste fantastique, quoi. C'est comme ouvrir un livre d'échecs, sauf que là, on est devant son écran et on suit les pensées d'un grand maître. Et voilà, donc je te remercie notamment, d'ailleurs, Stéphane, de faire ça. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre la Fédération et Diagonal TV pour ce troisième support, quoi. Donc on a trois supports Internet, vidéo, pour chaque événement maintenant.
Voilà, avec donc une meilleure communication, je pense, et une meilleure image. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Et c'est vrai que ce tournoi était de belle facture. Et puis, voilà, ce tournoi mixte, je crois que c'est vraiment intéressant. Je crois qu'il y a aussi... Il me semble que c'est à Condon, je crois, qu'il y a un tournoi féminin aussi qui est organisé, un fermé, je crois bien.
Oui, mais il y en aura aussi un à Metz cette année en juillet, grâce à un organisateur étonnant, puisqu'il a tout simplement l'âge de 15 ans. Un organisateur, un jeune joueur du club de Metz, Alexis Cahen, qui se lance en organisation à l'âge de 15 ans. Donc c'est très bien, parce qu'il va me succéder en Lorraine.
Ouais, voilà. D'accord, ouais, pas mal, intéressant, ouais, ça va, à suivre, on regardera ça avec intérêt. Donc voilà.
Et puis, ce que tu disais, donc, pour l'alternance, c'est simplement qu'au bout de quelques années, j'en avais un petit peu marre d'organiser exactement le même format tous les ans, puis moi j'aime bien que ça change, j'aime pas faire les mêmes choses chaque année. Et donc j'ai eu l'idée d'alterner en fait, et d'aller voir l'autre forme d'échecs, les échecs rapides et les blitz. Hein.
Ouais.
Donc une année sur deux, mon festival au Conseil Général à Nancy, c'est les parties rapides et les blitz,
voilà.
Le week-end, ou alors ces tournois fermés sur 5 jours. Voilà, tout simplement.
Voilà, d'accord. Donc voilà, donc ça c'était pour Nancy 2016. Alors, On fera une pause et dans la deuxième partie, on parlera de Gonfreville 2016, championnat de France des jeunes, on parlera du top 12, on parlera bien sûr d'Agen 2016, le très grand rendez-vous hein, du mois d'août. Là, je crois que c'est vraiment le sommet. Mais avant ça, avant de faire cette pause, tu vas nous parler donc de ce nouveau titre hein, finalement sur ta carte de visite.
C'est pas
Christophe.
un titre en garde à vie.
Oui, alors bon, là, oui, alors c'est un
Un
titre.
joueur d'échecs,
C'est un
se
titre.
mettre en garde à vie.
Voilà, ça
Là, c'est
c'est.
un poste à la fédération.
Ouais, mais c'est quand même un titre. Alors, c'est un titre effectivement temporaire. Tu n'es pas assuré de le garder forcément jusqu'au bout.
Non. D'ailleurs, c'est pas souhaitable. C'est
D'ailleurs,
pas
c'est.
le genre de poste qui est souhaitable de garder trop longtemps.
Voilà, tu veux pas mourir
Je
sur scène
pense.
hein, comme Molière, hein, c'est pas le but. Alors donc, donc Christophe, donc tu es alors directeur technique national. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, c'est un joli titre, mais qu'est-ce que ça signifie quoi et quelles sont tes prérogatives à ce titre-là?
Alors, le directeur technique national, grosso modo, c'est la personne qui gère tout le côté sportif de la discipline. Donc, il y avait notamment une phrase sympa que je m'étais gardée en tête, que j'avais recopiée sur le site du ministère des Sports. Il est au centre d'un système complexe où il doit composer avec des enjeux sportifs, juridiques, médiatiques, sociaux, économiques, humains, politiques et professionnels. Donc, tu imagines, l'ordre du jour est chargé. Non, en fait, tout simplement, mes tâches principales, c'est quoi? Et bon, il y a tout un tas déjà de tâches administratives dont je vais te faire grâce et à tes auditeurs. Il y a notamment aussi donc tout ce qui est règlement, etc. Et pour ça, je suis bien sûr épaulé par le directeur technique national adjoint, c'est Jordi Lopez. Et il y a aussi tout simplement répondre aux médias, donc comme ce que je fais actuellement. Et notamment récemment, on a été en contact pour des reportages avec France 2, avec M6, etc., qui demandent des choses des fois pointues, détaillées. Donc le siège de la fédération renvoie sur moi. Et puis moi, j'ai quatre tâches attitrées, une feuille de route avec quatre points précis. Donc en réalité trois et puis un que je me suis rajouté tout seul. Donc le numéro un, c'est l'organisation des grands événements. Donc ça, c'est ce que je faisais déjà en tant que directeur événementiel, mais je l'ai gardé, puisque il n'y a personne qui a pris ma place dans les événements, donc j'ai gardé cette prérogative. Donc sauf que maintenant je m'occupe des cinq en fait, grandes finales nationales. Donc c'est les deux championnats de France dont on a déjà parlé, celui des jeunes et celui du mois d'août, toutes catégories. Et puis le top 12, le top 16 jeunes. Enfin, top qu'on appelle Top Jeune, et la finale Coupe de France et Top 12 Feignard. Voilà. Donc ça fait cinq événements, cinq villes à trouver chaque année, cinq organisations avec, tu t'en doutes, un travail de fou multiplié par cinq, quoi. Ensuite, en point numéro 2, on a la recherche de partenaires pour la fédération. Donc ça, c'est quelque chose, un point sur lequel on a beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal de trouver des partenaires privés. Donc soit des sponsors, soit des mécènes. Donc j'ai repris cette tâche hein, qui était assurée par d'autres depuis 2013. Et puis en troisième point, il y a la réforme territoriale. Donc tu sais qu'il y a 13 nouvelles régions et pour nous, ça se traduit en 13 nouvelles ligues qui vont bientôt être constituées, j'espère le plus vite possible, puisque j'attends avec impatience mes 13 interlocuteurs, présidents de ligue. Et puis le quatrième point alors là, c'était pas vraiment sur la feuille de route, mais je me le suis rajouté parce que je pense qu'on a quelque chose à faire, c'est les équipes de France. Donc c'est le haut niveau, sachant qu'en théorie, le directeur technique national est responsable des équipes de France, de la politique de haut niveau, et notamment le grand objectif, le grand objectif 2016, c'est Bakou, septembre 2016, où on a nos deux équipes de France, donc la mixte et puis la féminine, qui vont jouer, et notamment pour les gars. Qui vont, j'espère, faire un grand résultat. Parce que, à mon avis, c'est l'année où on peut faire quelque chose de fantastique avec notre formidable porte-drapeau, Maxime Bachelagrave, actuel numéro 5 mondial. Donc quelque chose d'exceptionnel pour les échecs français, le plus fort joueur d'échecs français de tous les temps. Et encore Étienne Bacro et Laurent Frayssinet qui sont bien évidemment de très grands champions et qui sont pas encore vieux, hein. On en entend parler depuis il y a des années, mais ils sont encore dans la trentaine. Et après, peu importe quel joueur va sélectionner le sélectionneur national Sébastien Mazet, mais vous avez du Stratescu, du Bauer, du Garagnan, du Katchev qui sont d'excellents joueurs, de Romain Edouard, d'excellents joueurs pour la quatrième place de titulaire et la cinquième place de remplaçant. Donc, à mon avis, à Bakou, septembre 2016, on peut faire quelque chose et j'aimerais les aider. J'ai quelques idées et j'ai commencé à parler avec les deux sélectionneurs. Voilà quoi. Mais bon, ça, c'est un petit point, on va dire, que je me suis rajouté, mais c'est les trois principaux, c'est ce que j'ai donné.
Alors ça m'a donné envie, ce que tu nous as raconté là, de rebondir sur deux sujets. Alors, tu parlais des ligues, je crois savoir, mais tu vas me confirmer, puisqu'on a eu le directeur, enfin le président de la Ligue Île-de-France, il n'y a pas longtemps sur Diagonal TV, on a eu Robert Iazzoni, qui va prendre sa retraite cette année, qui vient de finir là, je crois, son dernier grand tournoi avec ce fameux Blitz et rapide, le RNB, et qu'il a appelé RNB Île-de-France, qui est vraiment, je pense, un super événement qui me plaît beaucoup. Et donc il a annoncé sur l'antenne de Fréquence Diagonale que donc ces élections en Île-de-France auraient lieu en juin. Donc c'est en fait il y a une anticipation des élections. Voilà, c'est bien de le faire savoir ça.
Bon, c'est-à-dire que l'Île-de-France, comme Centre, Pays de la Loire, Bretagne et Corse sont les cinq régions, ligues qui ne changent pas. Mais bien sûr, il va y avoir des évolutions de statut et ça va bien sûr changer des choses. Donc c'est très bien. Par contre, après, on a des vraies fusions entre régions. Moi, je vais imaginer dans mon cas, par exemple, dans ma région, c'est Champaradenne plus Lorraine plus Alsace. Oui. Ça va donner la deuxième plus grosse ligue de France. Oui. Et il y a des choses qui vont changer, très importantes, avec des super présidents, en fait, de ligue. Qui vont avoir une grosse responsabilité, et notamment bah, un des projets de la fédération, et moi ça me tient particulièrement à cœur ce projet, c'est de faire, en fait, on fait tous les sports pour se développer à un moment donné, c'est envoyer des agents de développement dans les régions. Alors bien évidemment, quand il y avait 29 ligues, c'était tout simplement impossible, puisque on n'était pas assez puissant, la fédération est pas assez puissante pour envoyer 29 personnes, salariés 29 personnes pour aller faire du développement. Par contre, à 13, ça devient possible, surtout en négociant correctement avec les nouvelles régions, hein, les nouveaux comités régionaux, et avec l'appui de ces 13 super présidents, de faire quelque chose. Et moi, mon rêve, ça serait qu'il y ait 13 personnes chargées que de faire du développement, créer des clubs, aider le président de la Ligue, qui souvent est bénévole et complètement débordé, créer des tournois, créer des pôles jeunes régionaux. Ça existe bien sûr, par exemple, dans les ligues super bien structurées comme l'Alsace ou la Corse, bien évidemment, ça existe déjà. Donc là, le chargé de développement, il ne va pas forcément créer des clubs ou gérer les jeunes, mais il va faire d'autres choses. Il y a tellement de choses à faire en région pour faire enfin progresser notre nombre de licenciés et notre nombre de clubs. Pour l'instant, ça a bien monté ces dernières années, le nombre de clubs. On est à, je crois, plus de 930, mais on pèse pas encore assez lourd. On pèse pas assez lourd. Et à mon avis, la réforme territoriale et le fait que la fédération va travailler avec 13 régions seulement, ça va améliorer les choses, je pense. Les électeurs en mars 2017 gardent la même équipe, et notamment si je reste en place, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer. Et ça peut vraiment changer les choses, à mon avis, au niveau du développement du jeu d'échecs en France.
D'accord. Là, tu parles des élections à la fédération qui auront lieu en mars 2017, c'est ça, hein?
Voilà. Peu importe que ce soit le nouveau président, un nouveau président ou l'ancien Diego Salazar, qui est depuis 4 ans, à mon avis, c'est un projet, ça doit être le projet numéro 1 de la fédération quasiment, de faire du développement en France, dans ces 13 régions. Bon, sans oublier le Dom-Tom, tout, là, on a plus de difficultés, mais à mon avis, c'est un projet de développement essentiel qui doit être au-dessus de la politique, au-dessus du poste de président.
Dom-Tom, on a en Guadeloupe un président de la Ligue, alors je ne sais plus si c'est Martinique ou Guadeloupe d'ailleurs, je confonds toujours les deux, mais qui est très actif.
Bien sûr, mais pour nous, il faut avouer que c'est dur. Hein.
C'est Gilles.
Par exemple, on rigolait avec le directeur, il était justement là pour nous dire pourquoi pas un événement en Guadeloupe, et ça me faisait penser à la Coupe Davis. Mais t'imagines le budget qu'il faut pour aller organiser un événement. Ils ont souffert au tennis à la Coupe Davis sur ce budget, et ouais. nous, on exploserait. Quoi, hein.
Ouais, bah, c'est quand même pour faire
des petits moyens.
C'est pour faire un petit coucou à Gilles Suez-Panama, qui donc.
Bien sûr, qui est super actif.
Voilà, qui est super actif.
Qui est membre du comité d'acteurs de la fédération.
Voilà, hein, donc voilà, un petit coucou à Gilles qui est passé sur Fréquence Diagonale. Vous pouvez retrouver le podcast d'ailleurs, hein, si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Gilles, et puis c'est aussi sur la Ligue. Alors je ne sais plus si Guadeloupe ou Martinique, et chaque fois parce que je crois que c'est deux différents, parce que c'est assez loin, les îles sont loin l'une de l'autre. Bon, bref, bon, je ne connais pas bien, hein, donc j'en parle mal, je suis désolé pour les, pour les Martiniquais. Bon, bref, alors donc ça c'était pour les ligues. Alors donc pas d'anticipation d'élection en général, à part donc Île-de-France ou Corse, où il n'y a pas d'anticipation spéciale à avoir.
Pour les détails, je renvoie sur le site de la fédération, on a fait un document extrêmement clair et parfaitement bien fait sur qui doit faire quoi. Les anciennes ligues doivent faire un bilan patrimonial, ensuite elles doivent fusionner entre elles, il y a des nouveaux statuts de ligue qui sont en ligne sur le site de la fédération, Et tout est vraiment, on a le juriste de la fédération qui peut aider tout président de ligue qui veut bien l'appeler pour demander des conseils. Vraiment, on a tout bien géré, tout ça. Et moi, en théorie, je ne devrais pas intervenir sur ce sujet. Moi, j'interviens que lorsque j'ai mes 13 interlocuteurs et qu'on peut commencer à travailler sur ce projet de développement. Voilà. Mais pour tout le côté statut, etc., vraiment, tout est super bien préparé sur le site de la fédération.
D'accord. Alors, deuxième point, sur lequel je voulais rebondir, parce que j'avais dit deux points, ça c'était le point sur les ligues. Alors, tu nous as parlé de Bakou, avec l'arrivée des équipes de France à Bakou. Alors, il s'agit des Olympiades ?
Alors, c'est les Olympiades, oui, excuse-moi, pour nous, dans notre monde, c'est tellement évident, mais voilà. C'est les Olympiades d'échecs, bien sûr. C'est la plus grande compétition d'échecs du monde, qui rassemble quasiment 180 pays. T'imagines, il n'y en a pas beaucoup plus que ça dans le monde, des pays. Donc, quasiment toutes les fédérations affiliées à la FIDE. Et c'est vraiment le baromètre aussi, un petit peu, du niveau des pays. Bien sûr, la Russie... est toujours très forte favorite, mais elle gagne pas tout le temps, surtout dernièrement. Elle gagnait à l'époque Kasparov systématiquement, mais ça n'est plus le cas. Ensuite, on a eu l'Arménie qui a gagné beaucoup. Les Chinois sont extrêmement forts maintenant, extrêmement forts. Et les États-Unis en recrutant Caruana, l'Italien, et avec leur Nakamura, vont vraiment, à mon avis, jouer pour les premières places. Sauf que, ça se joue beaucoup sur la forme, ces compétitions très 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 dures. Il y a des chocs, il y a des matchs clés, notamment il y a 2 ans, la France avait fini par perdre la Chine et la Russie, donc il n'y a vraiment pas de honte, mais ils étaient en tête tout le temps, et dans la tête en tout cas. Et ça se joue vraiment sur rien, ça se joue sur un coup en finale de tour d'un joueur qui va trouver le coup, pas trouver le coup. Vraiment un résultat, un podium, ça se joue sur rien du tout, quoi. Donc on peut faire quelque chose avec un MVL au premier échiquier qui peut battre absolument n'importe qui dans le monde. Et on peut vraiment faire quelque chose. Moi j'y crois beaucoup cette année, c'est vraiment à mon avis l'année où on est fort.
D'accord, mais alors tu échapperas pas à la question Diagonal TV, évidemment, concernant le format de ces compétitions par équipe.
Ah oui, je sais que tu aimes le chaos les fins de tournoi au chaos, et moi aussi.
Alors on va expliquer pour les auditeurs le problème, c'est que c'est ce championnat qui est sur le papier super intéressant, comme tu dis, puisqu'il y a 170 pays alignés.
Tous les meilleurs joueurs du monde.
Hein. Bah, les meilleurs joueurs du monde, alors c'est des matchs par équipe, une équipe rencontre une autre équipe. Mais alors, le résultat n'élimine pas l'équipe adverse. Bon, pourquoi pas, il y a un championnat, mais ça existe aussi. Par exemple, si on prend le football, typiquement un vrai jeu par équipe, où il y a des poules, par exemple, dans la Ligue des Champions, mais sortie des poules, et d'ailleurs la Coupe du Monde aussi, sortie des poules, on passe en élimination, et là, l'intérêt du public grandit, et il atteint un paroxysme pour la Coupe du Monde de football, qui est le plus grand événement médiatique du monde, hein, depuis longtemps. Et notamment, c'est du fait que voilà, on a un match dont on est sûr que là va sortir le grand vainqueur, et si nécessaire d'ailleurs jusqu'au tir au but, et c'est arrivé. On a eu une finale de Coupe du Monde de foot au tir au but. Je crois que c'est l'Italie d'ailleurs qui avait remporté. Ou le Brésil, je ne sais plus. Je crois que c'est l'Italie-Brésil, il me semble bien. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet, on est aux échecs. Mais justement, aux échecs, on peut se rappeler des grands championnats du monde, parce que, voilà, Fischer-Spassky, les matchs Karpov-Korchnoi aussi, même s'ils étaient, ils sont un peu moins dans la tête du grand public, mais ils ont marqué leur époque aussi, pour des raisons un peu extra-sportives, mais parce que les matchs étaient identifiables. On a eu les Kasparov-Karpov, on a eu le grand match Kasparov-Kramnik en 2000, avec la chute enfin, disons, après 15 ans de règne de Kasparov. On a eu dernièrement Carlsen face à Anand. Voilà, on a ces grands matchs qui marquent les esprits par le style, par ce qui se passe autour du match, etc. Et qui donc attirent toute l'attention. Alors que là, on est dans un mode championnat du début à la fin. Et en plus, un mode spécial où en plus, c'est même pas le fait qu'on ait gagné contre une équipe qui fait qu'on marque des points, mais on compte le nombre de points de partie qu'on a joué. Donc, c'est à la limite, gagner contre une équipe, c'est pas vraiment, c'est pas significatif.
Oui. En plus, le fait que tu es en tête tout le tournoi, il y a le gros clash avec le deuxième ou le premier à la dernière ronde, tu perds et tu finis dixième.
Pour le public, on est en tête du tournoi à la dernière ronde, on est en avance, voilà.
On joue le premier, on fait
un mauvais score, on perd 3-1 et on va se retrouver septième du tournoi d'un coup. Ça n'a pas de sens, c'est très difficile à suivre. Et donc ça veut dire que pour suivre le résultat final de ce type de compétition, il faut suivre 10 matchs en même temps. Et sur chacun des matchs, il y a 4 parties en même temps. Au total, donc c'est totalement illisible. Il faut attendre la fin de la compétition pour voir le résultat. Et puis on passe à autre chose. Ce qui fait qu'on n'a rien vu, on n'a rien suivi. il n'y a pas d'intérêt et il y a un problème de format. Alors, qu'est-ce que tu
Alors,
en...
c'est vrai qu'aux échecs, Stéphane, on aime beaucoup les formats open, en fait, puisque c'est le type open, open suisse. Donc, on a développé ça et 90% de nos compétitions, en fait, sont système suisse. Et alors, qu'il y a des avantages, hein, quand on parle d'un grand tournoi avec des tonnes et des tonnes d'amateurs, tout le monde jusqu'au bout. Ça, c'est quand même un énorme avantage. Tu as 300 joueurs, il n'y a pas 150 le deuxième jour, et puis la moitié le troisième jour, etc. Tu as 300 joueurs, tout le monde va jouer les 9 jours ou les 7 jours, et puis toutes les rondes. C'est aussi sympa, ça. Personne n'est éliminé. C'est aussi un des avantages du système suisse. Mais c'est vrai que dans les compétitions qu'on voudrait médiatiser, comme les Olympiades ou comme certains championnats de France, c'est vrai que ça pourrait être sympa de finir par un système coupe, qu'on appelle système coupe ou élimination directe, avec quart de finale, demi-finale, finale, et quelque chose vraiment qu'on pourrait médiatiser au maximum sur la fin. Et ça, c'est ce qu'on a fait au Championnat de France de Blitz cette année. Et effectivement, rien à voir. J'ai assisté au Championnat de France de Blitz qu'on a fait, ou grand tournoi de Blitz qu'on a fait pendant le Championnat de France à Nîmes. Donc je suis arrivé aux deux dernières rondes, tout simplement, les jeux étaient déjà faits, les joueurs gardaient les premières places, les joueurs ont fait nul en quelques coups, sur les deux, trois dernières rondes, sur les premiers échiquiers, parce que en fait, ils étaient déjà assurés de finir dans les premiers et ils partageaient les prix. La différence, à Saint-Quentin, on a fait des systèmes de poules, puis des qualifications, ensuite on a fait 32 joueurs, éliminatoires, 16 joueurs, 8, 4, et puis la finale, et là c'était serré, tendu, intéressant jusqu'au bout, et on avait peut-être 200, 300 spectateurs dans la salle qui suivaient la finale entre Choker et... qui Belten, je crois, hein, c'était Choker Belten,
ouais.
Et c'était vraiment superbe, quoi. C'était vraiment superbe. Et je suis aussi d'accord que pour les événements qu'on veut médiatiser très très fort, le système KO devrait quand même remplacer notre système suisse qui n'est bien que pour les grands rassemblements d'amateurs.
Quoi. Voilà, on en tient un. Je crois que tu es le premier hein, sur Fréquence Diagonale à avoir. À être allé dans ce sens. Alors, peut-être pas le premier, parce que Léo Battesti est convaincu depuis très longtemps, puisque lui-même a mis en place dans, bien sûr,
Corse, le système KO. Le Corsica Master, c'est un tournoi génial, c'est palpitant jusqu'au bout, et bien sûr, si vous voulez du public, si vous voulez Nebedia, il faut finir par un système coupe. Alors, attention, qui ne va pas forcément remplacer le tournoi fermé, parce que par contre, le tournoi fermé, le National du Championnat de France, pour donner le vrai titre officiel,
c'est
quelque chose de magnifique.
Ah non, mais il ne faut pas oublier que le football, il restera le championnat de France qui est très important. D'ailleurs, le championnat de France, c'est ce qui permet de se qualifier au championnat de France, qui est un championnat, hein, typique exactement pareil qu'un tournoi open. Un tournoi open, c'est une forme de mini-championnat, si on veut. Donc voilà, et qui permet, par contre, d'aller se qualifier pour la très grande compétition qui est la Ligue des Champions et qui, elle, par contre, va attirer tous les regards avec ces fameux matchs par élimination et notamment la grande finale. Bon, alors donc, bon, mais très bien. On a fini, si tu veux bien, Christophe, cette première partie. On va une pause musicale. On se retrouve juste après pour parler de choses très, très, très importantes. Le championnat de France des jeunes, qui est un événement colossal. On n'en parlera jamais assez. Un petit peu le top 12, hein, on va dire quelques mots. Bon, même si, bon, voilà. Et donc, Agen 2016, là, par contre, plus intéressant pour un programme qui s'annonce là aussi encore nouveau, hein, une nouvelle ville et donc forcément des nouveautés. Voilà, donc tout de suite, une pause musicale sur Fréquence Diagonale. On se retrouve juste après. Thank you. Bienvenue de retour hein, sur Fréquence Diagonale après cette pause musicale. Je suis donc toujours avec le maître international Christophe Philippe, nouveau directeur technique national et puis donc aussi en charge du suivi, hein, un petit peu l'organisation, la mise en place des grands événements nationaux. Alors, des grands des événements nationaux de la Fédération française, puisqu'il y a aussi des grands événements nationaux de niveau national gérés par des ligues ou des clubs. Bien sûr, on a parlé sur Fréquence Diagonale de Capelle-Lagrande, du championnat de Paris, de l'Open
Cap
de Corse, du Cap d'Agde,
Avoine, Cannes, voilà. des magnifiques tournois.
Mais Cannes, bien sûr, le Festival des Jeux, il faudra bien sûr qu'un jour, il faudra une émission spéciale pour Cannes aussi, bien sûr. On a parlé de Nancy qui est important, voilà. Donc alors, tout d'abord, championnat de France des jeunes, Gonfreville, c'est où, c'est quand et il va se passer quoi cette année?
Alors, d'abord un petit récapitulatif surtout. Donc, on a choisi 5 événements à la fédération. On a des moyens limités. Hein, on est toujours en train de rechercher des partenaires privés, etc. C'est très difficile avec le président Diego Salazar, avec le directeur général Stéphane Rérault. On passe un temps fou en fait au financement en fait des événements, parce que les événements c'est quand même une grosse part du budget de la fédération. Et donc, on n'a pas pu en sélectionner plus que 5, mais c'est déjà extraordinaire, où on va déployer notre équipe événementielle et on va médiatiser ces événements fortement. Donc ça commence en avril, du 10 au 17 avril, par effectivement le Chopin de France des jeunes à Gonfreville-Lorcher. Puis ensuite, on aura le top jeune en mai à Bichevillers, le top 12 à Drancy en juin, et Saint-Quentin, Coupe de France et top 12 féminin final en fin juin à Saint-Quentin. Et enfin, on finira en août par le Chopin de France d'échecs individuels à Agen. Alors, les jeunes, donc on est cette année à Gonfreville-Lorcher, c'est à côté du Havre. Alors, en France, on connaît bien ce club parce qu'il a été un grand club de top 12 il y a quelques années. Puis ensuite, ils ont entamé un virage plus vers la formation et ils ont préféré ne pas avoir une équipe en top 12, mais plus se tourner vers la formation des jeunes, ce qui est tout à fait louable. Et son président, enfin qui fait tout, c'est Cyril Beaujoie, qui est quelqu'un de passionné, qui vraiment fait un boulot extraordinaire sur ce championnat de France des jeunes depuis 2 ans. C'est rare, hein, les championnats qui se préparent 2, même 3 ans à l'avance quasiment. Il était déjà venu repérer à Montbéliard-Belfort, l'année dernière à Pau, il avait carrément fait un stand déjà. C'est assez rare qu'on puisse avoir un stand de présentation une année avant. Et c'est vraiment l'organisateur local référent de la fédération sur place et qui se démène. Démène énormément, quoi. Et donc, alors, il y a des avantages, et chaque année, de toute façon, quand on va dans une ville différente, c'est un peu la difficulté. On a des atouts et des inconvénients par rapport à l'année précédente.
Alors, les dates.
Les dates, 10-17 avril.
10-17, voilà, tu l'as dit tout à l'heure aussi, oui.
Voilà, oui. Alors, donc, les dernières à Pau, on avait, au niveau de la configuration, quelque chose d'extraordinaire. On était un parc d'exposition avec 3 halls. Donc, on avait parfaitement le hall de jeu, le hall d'analyse et le hall, village échec, qu'on appelle village échec, où les parents peuvent attendre, où il y a les stands, etc. Cette année, on n'a pas pu avoir l'unité de lieu pour le jeu, parce que, bon, Gonfreville est une plus petite ville, et donc il n'y a pas de parc d'exposition ou ce genre de choses. Mais on a quand même 2 lieux pas trop éloignés, il faut marcher 3-4 minutes. Les petits qui ne jouent que les 5 derniers jours sont dans un lieu, en fait c'est le club de Gonfreville, avec un immense dojo magnifique, hein, tout neuf quasiment, et le reste des joueurs, donc quasiment les 1000 autres joueurs, parce que c'est énorme, je crois, France des jeunes, hein, c'est 1300-1400 jeunes, se jouera dans un complexe sportif qui est donc à quelques minutes de marche, quoi. Mais on aura, entre ces deux choses, un village échec magnifique. Alors ça c'est la première fois qu'il y a ça, je pense, avec quasiment 2000 mètres carrés, où on aura toutes les zones. Donc il y a les parents qui peuvent attendre, il y a la buvette, il y a les stands, mais il y a aussi la zone conférence qui sera bien séparée. Donc là, par contre, ça améliore l'année dernière Pau. Il y aura une salle de retransmission, une salle VIP pour les partenaires, etc. Donc vraiment, on a quelque chose de magnifique, d'abouti cette année à Gonfreville.
Alors le nombre de participants à Gonfreville, il y a combien de joueurs, il y a combien d'accompagnants, ça fait combien de monde ce championnat?
Alors, c'est énorme parce que tu comptes à peu près 1300 joueurs. Et bon, t'imagines que les enfants ne viennent pas tout seuls. Donc, ils viennent soit avec des parents, soit avec des entraîneurs, des présidents de clubs, etc. Donc, on estime que ça fait à peu près plus de 4000 personnes.
Ah oui, quand
Donc
même.
c'est gigantesque en termes de retombées économiques. On est plus près de 2 millions d'euros que de 1 million d'euros. Celui du mois d'août, on est entre 1 et 2 millions d'euros. Celui du patron des jeunes en avril, il est plus de 1,5 million d'euros sans problème, quoi, de retombées économiques sur la zone.
Oui, parce que
Donc
ça fait
ça intéresse
4.
fortement les villes, quoi.
Oui, ça
Même
fait.
si les villes, bien sûr, tu t'en doutes maintenant, ont de plus en plus de mal à financer, mais au niveau de l'intérêt médiatique et retombées économiques, c'est extrêmement intéressant pour elles.
Oui, alors 4 000 personnes pendant une semaine, hein, donc c'est voilà, c'est
Voilà,
pas.
toujours cette histoire, tu vois,
Ouais.
qu'on n'est pas éliminé aux échecs. Donc,
Ouais.
effectivement, les 1 300 jeunes, ils sont là du premier jour le dimanche
Ouais.
au dernier jour le dimanche suivant.
Et les accompagnateurs aussi, hein.
Tout à fait, tout
Voilà.
à fait. Ouais.
Donc voilà,
Donc,
donc c'est.
les hôtels, les restaurants, les gîtes pleins à 30 km à la ronde.
Voilà, c'est à plein ras-bord et donc avec une grosse ambiance échec pendant toute la semaine. Voilà. Alors donc. Donc ça c'était Gonfreville, donc on a compris 10 ou 17 avril, voilà, donc un très bel événement à voir, hein, pourquoi pas, on peut aussi bien sûr aller voir, hein, ça vaut le coup, parce qu'il y a les jeunes qui ont maintenant aussi en plus un très très bon niveau, hein, c'est pas le niveau des jeunes d'il y a 30 ans, hein,
Ah non, non, c'est sûr, l'année dernière, par exemple pour le titre junior, maintenant c'est des maîtres nationaux qui se battent pour le titre junior, c'est du Jules Moussard,
voilà.
c'est du Pierre Barbeau, ce genre de joueurs qui sont extrêmement forts, et même dans les petites catégories, hein, par rapport à quelques années, maintenant vous avez des poussins à plus de 1600, 1700 élo, ça joue partout, hein.
Oui, Jules Moussard, d'ailleurs, champion de France l'an dernier, je crois, avec 9 sur 9, champion de France junior, qui a fait le national, et qui là vient de jouer le tournoi de Cannes, où il a fait une partie nulle face à l'ancien finaliste des candidats au titre mondial, Gata Kamsky. Voilà,
Non, mais
donc.
Jules, il a surtout un record extraordinaire qui va être difficile à battre, je sais pas, de France des jeunes, c'est qu'il a gagné toutes les catégories.
En plus,
Donc on
voilà.
reste 2 ans dans une catégorie, mais il les a gagnées toutes. Il y en a 7 de petits poussins à junior, il a
Ouais.
7 titres de champion de France.
Ah ben.
C'est quand même extraordinaire.
Bah, on pourra pas le battre, on pourra faire aussi bien. Mais
Oui, de toute façon.
donc voilà, donc et qui a été aussi vice-champion du monde, hein, faut rappeler. Donc voilà, donc ça c'est pour Gonfreville. Alors un petit mot sur le top 12, ça va être où, ça va être
Alors,
quand?
le top 12, c'est notre plus grand événement par équipe, donc en
Ouais.
France, avec les 12 meilleurs clubs de France, donc avec tous les meilleurs joueurs français quasiment et quelques stars internationales qui renforcent les équipes. Et donc c'est à Drancy, du 28 mai au 7 juin. Donc l'année dernière, c'était au bord de l'eau, au Grau-du-Roi. Cette année, on remonte en région parisienne et c'est organisé, donc le référent local, c'est le club de Drancy, bien sûr, avec Christophe Bouton et le maire qui est joueur d'échecs. Son nom m'échappe maintenant, c'est je crois que c'est Lagarde, hein, c'est ça. Et donc c'est juste excellent parce qu'en région parisienne, alors bien sûr, on n'est pas au bord de l'eau, comme manière, tout ça, mais on a aussi plus de médias qui peuvent venir. On a au niveau des conditions, notamment de retransmission, c'est vrai que l'année dernière, on est un petit peu embêté par Internet. Cette année, bien sûr, quand vous êtes en région parisienne, il n'y a pas ce genre de problème. Donc voilà, et puis de toute façon, ce championnat, il doit changer chaque année de lieu et donc faire voyager un petit peu, quoi. Donc là, on est à Drancy cette année.
Alors, tu vas nous rappeler quand même ce que c'est que le top 12 pour ceux qui savent pas, parce que évidemment pour les initiés, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi top 12?
Alors, top 12, c'est les 12 meilleures équipes. Si vous voulez, il y a à peu près 15 000 joueurs chaque mois qui jouent des compétitions par équipe. De là, régional, alors ça dépend dans la ligue, des fois ça va jusqu'au départemental 2, 3, ça monte régional. La fédération, elle gère à partir de la nationale 3, ensuite on augmente nationale 2, nationale 1, et puis le plus haut niveau, c'est le top 12, voilà, où sont réunis les 12 meilleurs clubs de France, en tout cas par équipe. Voilà, donc c'est un budget qui est quand même conséquent pour rester dans le top 12, hein, puisque. Notamment mon club y est, Vendôme, donc je connais parfaitement que c'est difficile pour un club de maintenir une équipe en top 12. Il faut faire jouer les meilleurs joueurs de son club, éventuellement de sa zone, de sa région, mais ça ne suffit pas, quoi. Il faut être renforcé par quelques très forts grands maîtres internationaux pour pouvoir espérer rester au plus haut niveau, quoi. Et donc c'est un effort important pour les clubs, mais bon, on fait partie du plus haut niveau, c'est pour ça aussi qu'on fait du sport, hein, c'est pour toujours monter plus haut. Voilà, enfin, moi je trouve que c'est
Oui,
une compétition magnifique.
et ça permet aux joueurs en progression, évidemment, d'affiner leur jeu, de progresser, de rencontrer des
Ah
grands
bah ça
joueurs.
permet par exemple à tous les des jeunes émis français qui sont sont dans les derniers échiquiers ou au milieu des équipes, de jouer des grands maîtres, de voir aussi tout simplement. Moi, j'ai joué plus de 20 ans au plus haut niveau en National 1 et en Top 12. Enfin, avant, ça s'appelait Top 16 à un moment. Mais rien que de voir des 2600 analysés de ton équipe. Après, ils t'expliquent des choses le soir au dîner, ils analysent avec toi. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. C'est de jouer au plus haut niveau, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a un grand débat sur ce Top 12. C'est vrai qu'il avait été, par le président précédent, ramené à 11 jours. En fait, on joue les matchs pendant 11 jours en fin de saison. Alors, au lieu de jouer tous les mois, comme toutes les autres équipes de France, dans les autres divisions. Et alors, il y a des inconvénients. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des avantages et des inconvénients à ce système. C'est-à-dire, notamment, un des avantages, c'est qu'on peut médiatiser bien plus facilement, puisque la fédération se déplace avec tout son staff. Donc voilà, le directeur de la compétition, tout ça, sur un même lieu pendant 11 jours, et donc on fait venir les médias, on retransmet les parties, donc ça on le fait beaucoup mieux qu'avant, donc je pense que là il y a un intérêt à ce que ça soit sur 11 jours, mais bien sûr l'inconvénient, certains diront que c'est mieux de jouer 3 week-ends dans l'année, ou carrément tous les mois, mais bon là ça fait beaucoup de kilomètres, parce que forcément les 12 équipes en France, ça fait des super distances. Mais bon, avant, le système de 3 week-ends avait aussi quelques avantages. Mais bon, rien n'est jamais parfait. En tout cas, moi, je pense que vu comme... notamment pour les joueurs amateurs, c'est un peu délicat parce que tous les joueurs ne sont pas professionnels dans le Top 12. Hein. Vous avez quand même des équipes, quelques équipes, hein, celles qui descendent, généralement, elles sont composées d'une majorité de joueurs amateurs, ou même certaines qui se maintiennent. Hein. Donc, Top 12, c'est un mix entre des professionnels et des amateurs. Ça, c'est notre sport qui veut ça. Hein. On n'est pas tout amateur ou tout professionnel, on est mélangé. Notamment, par exemple, moi, je peux parler de mon équipe. J'ai des joueurs très forts, comme Nicolas Brunner, dont tu as parlé tout à l'heure, mais aussi Moustapha Nezar, sont maîtres nationaux aux échecs, donc ils ont leur place en top 12, mais ils travaillent, ils ont un boulot à temps plein, voilà, il y a un juriste, l'autre ingénieur, donc forcément, tu imagines, ils doivent prendre une semaine, voire plus de congés pour pouvoir disputer ce top 12, ouais. Donc des fois, ça crée des problèmes dans certains clubs, quand il y a trop de joueurs amateurs, voilà, donc ça parlerait plutôt pour revenir à 3 week-ends dans l'année, mais dans 3 week-ends, on ne peut plus médiatiser la compétition.
Ouais, alors,
on peut pas faire jouer tout le monde sur un même. Donc voilà.
C'est toujours le débat.
L'éternel débat. Il y a,
oui, voilà, alors le débat aussi qu'il faut clarifier, c'est que y a, bien sûr, le point de vue des joueurs ou le point de vue sportif direct, c'est-à-dire quand on est partie prenante de la compétition, son point de vue n'est pas le point de vue du public. Voilà, ces deux points de vue ne sont pas forcément concomitants et ne peuvent pas forcément se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le point de vue de la médiatisation du public n'a pas du tout les mêmes critères que les critères du joueur qui va jouer, lui, et qui cherche les meilleures conditions de jeu. Mais les meilleures conditions de jeu, ce n'est pas forcément les meilleures conditions de visibilité du jeu. Voilà, ce n'est pas forcément la même chose. Alors, donc voilà, donc ça, c'était sur le top 12. Alors, maintenant, on va parler au gros morceau, là, on va y passer du temps, parce que alors, c'est Agen 2016, alors championnat de France. On a eu un beau champion de France cette année, Christian Bauer, avec un championnat un peu,
rebondissement.
Un rebondissement avec un suspense, avec un Jean-Marc Degrave qui a quand même dominé le tournoi, en tout cas la grosse moitié du tournoi, avant de s'écrouler sur la fin. Et Christian Bauer qui est sorti tel un magicien, hein, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est vraiment l'impression qu'il nous a donné. Et qui a remporté ce titre, c'était son deuxième titre, donc il sera sans doute là pour défendre son titre et essayer d'en briguer un troisième. Je crois savoir que Laurent.
Il avait déjà gagné il y a très longtemps quand il était jeune,
voilà.
En 96.
Oui.
Ensuite, il a gagné un titre ex-aequo,
oui.
On connaît la fin de tournoi un peu difficile,
oui, c'est vrai.
Voilà, avec trois autres joueurs.
Oui.
Puis là, c'est son troisième titre, donc il jouera pour un quatrième.
Alors, je crois savoir que Laurent Frayssinet a envie de jouer cette année. Bon, évidemment, c'est jamais confirmé parce que ça dépend du calendrier international, ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Mais je crois savoir qu'il a envie de revenir parce qu'il était absent cette année. C'était le champion.
Et il a gagné il y a 2 ans à Nîmes.
Devant
Bacro, oui.
Voilà, donc Bacro était là cette année. En fait, c'était un très beau championnat avec un très bon niveau. Et chez les filles aussi, c'était passionnant avec le retour d'Almira Skripchenko qui est devenue record woman historique, hein, de nombre de victoires. Je crois que c'est 6. 6 victoires, elle a, je crois bien. Et donc, c'est le top, quoi. Elle a battu le record. Elle est toute seule devant maintenant en nombre de victoires. Alors, Agen 2016, alors déjà, premier point important, nouvelle ville en fait pour le championnat de France.
Alors, il y a beaucoup de choses qui changent. Une nouvelle ville, bon, ça change tous les ans quasiment. Bon, des fois, on revient dans la même ville, mais au bout de quelques années. Mais en tout cas, c'est une nouvelle ville. Il n'y a jamais eu de championnat de France à Agen, effectivement, dans les 91 ans d'histoire. Et surtout, nouvelle formule. Nouvelle formule. Nouveau nombre de rondes. Donc, alors, faut que j'explique quelques petits détails. Donc, ce championnat de France, c'est un énorme budget pour la fédération et c'est le plus gros événement. Alors, en réalité, le plus gros nombre de joueurs, c'est le championnat de France des jeunes, mais en budget, notamment dû aux deux nationaux, le national mixte et le national féminin, c'est le championnat de France individuel. Et ce tournoi, il déclinait un peu depuis quelques années. Alors, pour plusieurs raisons, moi j'estimais que c'était à cause notamment de sa longueur. C'est-à-dire que tu jouais 11 rondes avec même une journée de repos. Ça voulait dire qu'il fallait se libérer pendant 12 jours. Bon, après, en plus, il y a la journée de voyage éventuellement. Ça pesait lourd hein, sur le portefeuille des joueurs. Et on s'apercevait que de moins en moins pouvaient, alors il y a à la fois l'aspect économique, hein, se financer 12 jours d'hôtel, t'imagines, ensuite des restaurants, etc. Et puis il y a aussi l'aspect tout simplement jour de congé. Hein, quand on est salarié, c'est pas trop facile surtout qu'il y a d'autres tournois dans l'année, éventuellement qu'on a envie de faire, le tournoi de son club, etc. Quand on a une famille, on peut pas dire à sa femme, je pars 2 semaines au championnat de France individuel, et puis comme ça, tout seul. Bon, en plus, c'est pas toujours une ville touristique où on peut emmener toute la famille. Donc, à mon avis, ce championnat, il déclinait pour cette raison. L'aspect économique et puis l'aspect jour de congé. Donc, on a choisi de le réduire à 9 jours, 9 rondes, tout simplement. Donc, il n'y a plus la journée de repos parce qu'en 9 jours, elle n'est pas forcément nécessaire. Surtout, on va du samedi au dimanche. C'est-à-dire qu'on prend 2 week-ends. Ça veut dire que les gens n'ont plus, au lieu de quasiment 9-10 jours de congé à prendre, ils n'ont plus que 5 jours de congé à prendre du lundi au vendredi, les salariés. Bon, en plus, le petit bonus cette année, on a même le 15 août dedans, donc ils ont avec le lundi 15 août, donc ils n'ont même plus que 4 jours de congé à prendre. Donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir de nouveau des joueurs, un nouveau public qui va jouer l'individuel, le France individuel, pas forcément toujours des membres de l'éducation nationale ou des jeunes, ou des étudiants ou des chômeurs ou des retraités, mais aussi des actifs qui viennent en famille ou qui viennent tout seuls. Voilà, ça c'est ce que j'espère, ce que j'espère fortement, qu'on puisse, voilà, qu'un nouveau public qui avait délaissé le championnat de France puisse revenir le disputer.
Voilà, donc ça c'est donc effectivement un format plus court. Alors, est-ce qu'on a déjà une idée des velléités de participation des joueurs ou c'est trop tôt?
Alors, c'est trop tôt parce que, alors notamment pour les qualifiés au Elo, ça se passe le 1er mai, avec le Elo du 1er mai.
Ouais.
Donc, en tout cas, il faut attendre l'Elo du 1er mai. Et puis, pour les stars, hein, les stars attendent toujours un petit peu avant de se décider. Bah, déjà, ils peuvent avoir un clash avec un tournoi très important, notamment Maxime Machin-Grave. 2 ans de suite, il y a eu le clash avec le fantastique tournoi de Saint-Louis, donc là où il rencontre quasiment les 6, 7 meilleurs joueurs du monde. Donc, vous imaginez qu'il va plutôt disputer Saint-Louis. Voilà, mais bon, si il a rien dans son calendrier, j'espère fortement que le numéro 5 mondial viendra redisputer le championnat de France. T'imagines le clash avec Fraissinet, Bacro, Bauer, c'est tout ce qui fait le piment de notre superbe compétition. Par exemple, il y a quelque chose que je voulais dire, on se compare souvent avec l'Allemagne à tous les sujets, au niveau économique, tout ça. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'équivalent en Allemagne,
Ah
par
non, mais
exemple?
en Allemagne, non, il n'y a pas de grand maître en Allemagne, ça n'existe pas.
Bien sûr que s'il y a des grands maîtres en Allemagne, il y a quasiment autant de grands maîtres que nous, voire plus en Allemagne. Bon, ils sont un petit peu moins forts, c'est vrai, au niveau des élites, mais le championnat d'Allemagne, tout simplement, c'est une sorte d'open finale qui rassemble des joueurs qui sont qualifiés dans chaque région. Ils appellent ça des Landes, là-bas. Et donc, t'as jamais entendu parler du national allemand, tout simplement parce que ils font pas un format comme nous, ils font un vague open. Et donc, nous, c'est différent. On le médiatise, on a magnifique, avec des prix quand même qui sont assez importants pour les professionnels, national féminin. Et donc, on fait quelque chose quand même d'assez exceptionnel. On passe dans les médias, notamment les médias échiquéens, alors que c'est jamais le cas du championnat. Parfois, on peut faire des choses courent mieux que les Allemands, quoi. Alors qu'ils sont beaucoup plus de joueurs que nous.
Je crois que c'est pas parfois, c'est à peu près tout le temps. Je veux dire, c'est juste une
Non, non,
question.
non, ils sont aussi, ils ont des divisions très très bien organisées, ils ont des Open très bien organisés aussi. Mais bon, sur ces points-là, les événements, on est meilleurs.
Ouais, d'accord. Alors donc, ce championnat de France est aussi donc, alors bien sûr tu as parlé nationaux et puis beaucoup d'Open pour tous les niveaux, hein, ça va jusqu'à l'Open D, je crois.
Alors, oui, vous avez en fait 8 tournois au total. Vous avez les deux nationaux qui
Ouais.
reprennent. Donc là, on avait aussi baissé à 10 joueurs, puisque forcément, il y a 9 rondes. Donc pour un tournoi fermé, il fallait 10 joueurs.
Ouais.
Et ensuite, vous avez l'accession, qui est le très très fort tournoi où j'ai perdu temps et tant de points à l'eau. Le très très fort tournoi qui permet de qualifier au national. Donc les deux meilleurs se qualifient, les deux premiers à la fin du tournoi se qualifient pour le national de l'année suivante. Et donc au-dessus des joueurs au-dessus de 2200 ELO. Et puis, tu as le choix de France des vétérans, hein, pour les vétérans qui ont envie de jouer entre eux,
Voilà.
qui ont envie de jouer le titre de champion de France, mais ils peuvent disputer bien évidemment les autres tournois s'ils ont envie. Hein. Il y a des vétérans qui ils mettent un point d'honneur à ne pas disputer le vétéran, justement.
Ouais.
Et puis ensuite, tu as les championnats par Elo, donc A, B, C, D, qui permettent à toutes les catégories de joueurs de jouer. Donc là, c'est pour ça que ce tournoi, si vous avez jamais joué un championnat de France dans le cadre d'échecs, il faut faire. C'est même, je dis, je fais même pas la pub pour moi là, pour que vous veniez à Jeun. Dans votre carrière, il faut faire des championnats de France parce que c'est le plus beau tournoi de l'année. C'est celui où on joue dans un groupe avec des gens de son niveau qu'on a des chances de gagner. Mais en même temps, on joue à côté des stars.
Voilà.
On voit Bacro qui se bat avec Bauer, etc. Tout le monde se retrouve. On est entre 600 et 1000. C'est vraiment la grande fête des échecs de l'année. Il faut pas le louper, quoi. Je dis pas qu'il faut faire que ça. Vous avez des autres tournois magnifiques, le Cap d'Agde, etc. Avoine, Cannes, je sais pas, de Paris, vous pouvez les faire tous, mais je sais pas, de France, il faut le faire plusieurs fois. C'est
Voilà, donc effectivement, et surtout, donc on voit les stars, chez les femmes, on voit les stars aussi dans le mixte, et donc on peut apprécier de pouvoir les approcher, de leur faire signer des autographes, ça arrive tout le temps, bien sûr, mais aussi on peut donc voir leur partie en direct. Alors soit pendant qu'on joue, on peut jeter un œil dessus, soit une fois qu'on a fini de jouer, on peut suivre la fin de leur partie, et c'est toujours passionnant de pouvoir voir les grands joueurs. C'est pas tous les jours qu'on peut le faire, voilà. En
Et
direct.
surtout, et cette année à Agen, en plus, on a quelque
Alors.
Chose d'autre. C'est, on a eu un petit peu du mal à trouver la ville, parce qu'une ville qui nous avait quasiment dit oui nous a fait faux bond un peu au dernier moment. Donc on a dû rechercher entre septembre et décembre. J'ai passé un temps fou donc, avec le président de la fédération, Diego Salazar. Et on a trouvé cette ville à Agen qui est superbement bien placée dans le sud-ouest, donc un lieu de vacances. Mais c'est quand même une ville de taille raisonnable avec des prix raisonnables de gîtes, d'hôtels, etc. autour. On n'est pas dans des villes ultra touristiques du sud de la France où ça serait trop cher. Donc vraiment, c'est accessible pour tous. Et surtout, on va jouer dans un équipement extraordinaire. On va jouer dans un palais des congrès. Bon, ça arrive régulièrement.
Ouais.
Mais tout neuf, quoi.
Tout neuf,
qui a un an, avec toute la modernité. Alors évidemment, tout est climatisé, tout ce que vous voulez. Vous n'aurez pas de problème de chaleur, tout ça. Mais surtout, tout est neuf. Vraiment, on va avoir un superbe écran géant. On va mettre en scène les joueurs du nationaux sur une scène, justement, magnifique. Tout le monde va avoir des très belles conditions de jeu. Bon, de toute façon, les conditions de jeu, je sais pas, chaque année, elles sont plutôt, plutôt très bonnes. On a une équipe de staff FFE qui fait vraiment un boulot fantastique. Et on a quasiment, je pense, les meilleures conditions de jeu en France, avec au niveau des échiquiers, au niveau de la place, des tables, etc. C'est plus comme quand moi, je discutais, je sais pas, France, au début de l'ère, dans les années 90, des fois, on jouait un peu tout serré, il n'y avait pas de nappe sur des tables brassées, etc. Alors maintenant, ça n'a plus rien à voir. On a un haut standing d'organisation maintenant. Et donc, dans un palais des congrès, tout neuf, ça va être, en plus, pas trop loin du centre-ville. Ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc évidemment, dans ce genre de show, en plus, vous avez plein de facilités. Il y a un parking immense, donc vous arrivez en voiture, vous vous garez, vous jouez votre partie 2 minutes après. Enfin, ce genre de choses, quoi. Il y a plein de commodités dans ce genre d'équipement.
Voilà, donc un superbe équipement, et ça, il y aura donc une très belle mise en scène, apparemment, d'après ce que tu nous dis. Et puis donc, il y aura de belles images souvenirs à faire, de belles photos. Donc
oui,
ça va être
normalement, ça devrait être donc l'événement de l'année. Ça c'est un peu le cas tous les ans, mais cette année, en plus au niveau vidéo, au niveau retransmission, tout ça, on va être au point à Agen. On a fait des tests très sérieux. Là, il y a 4-5 personnes dédiées à ça à la fédération qui passent beaucoup de temps, et on va vraiment, je pense, produire un spectacle en plus d'accueillir une grande masse de joueurs. On va produire un spectacle magnifique.
Voilà, et en plus à Agen, une superbe ville du sud-ouest, donc voilà. Donc,
c'est vers chez toi, ça, c'est ça.
Voilà, mais oui, non, mais ça va être, oui, c'est un endroit vraiment magnifique, il faut y aller. Voilà, donc c'était donc voilà, mais donc on a, je crois qu'on a fait le tour, Christophe, hein. On a bien balayé, hein, ben, toutes tes activités qui sont
Alors, je
extrêmement
voulais finir sur
nombreuses.
quelque chose. On n'a pas trop rebondi sur la recherche de partenaires. Bon,
Oui.
j'en profite, j'utilise ton média. Parce que c'est vrai qu'on perd énormément de temps à la fédération, en fait, pour toujours essayer de réduire chaque dépense, essayer de trouver des partenaires, alors public, privé. Public, bien évidemment, ça s'effondre, notamment pour ça que le 26 mars, à l'Assemblée générale de la fédération, il y aura l'annonce malheureusement d'un déficit sur 2015, parce que c'est très très dur, c'est de plus en plus dur, l'argent public, bien évidemment, en plus, nous, on ne gaspille vraiment pas. Quand on l'utilise dans une organisation, il y a vraiment des retombées économiques énormes derrière pour l'institution qui nous a donné cet argent. Mais l'argent privé aussi, c'est difficile parce qu'on n'est pas un sport qui passe à la télé, on n'est pas un sport majeur, public, etc. Enfin, grand public. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, par contre, on a un avantage, c'est qu'on a des gens de très bonne qualité, de très grande qualité, dans les échecs, qui ont joué aux échecs, par exemple, jeunes. Et qui maintenant sont arrivés à des postes importants en étant devenus adultes, hein, en grandissant. Et ces gens-là, j'appelle vraiment fortement à ce qu'ils nous contactent, à la fédération, ce qu'ils me contactent notamment, et qui, s'ils ont envie de rendre un petit peu aux échecs ce que leurs échecs leur ont apporté, parce qu'ils ont, hein, t'imagines, on réunit plus de 1 000 jeunes chaque année, donc 100 000 jeunes, il y en a qui ont réussi maintenant depuis 30 ans, 40 ans. Et donc, s'ils ont réussi et qu'ils sont, alors je parle pas des millionnaires qui ont créé une start-up, mais même des gens qui sont à la tête d'entreprise maintenant, qui nous aident, parce qu'on a beaucoup de projets de développement, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure pour les nouvelles régions, mais il y a plein d'autres choses sur les événements, sur plein d'autres choses, plein d'autres points sur le maillage du territoire, etc. Et on a plein de projets, sauf que à la fédération, on est toujours et éternellement bloqué par ce manque d'argent, parce qu'en plus, ça prend beaucoup d'énergie, pas seulement à le chercher, le nouvel argent, mais aussi à économiser celui qu'on a difficilement. Donc en fait, ça nous prend une énergie folle, et moi, j'aimerais bien, au lieu de chercher tout le temps des partenaires de l'argent, j'aimerais bien faire progresser mon sport et faire du développement, quoi, au lieu de entre guillemets, perdre du temps à chercher des partenaires, même si il faudrait de toute façon toujours le faire, même si on en a des plus. Mais on n'en a absolument pas assez. Il y a notamment la BNP qui arrête, donc qui va être sans doute reprise par une nouvelle banque à partir de 2017. On aura sans doute une nouvelle banque partenaire. On est aussi là en négociation avec un partenaire national. Donc je peux pas dire son nom parce que c'est confidentiel, mais j'espère que ça va signer dans les prochaines semaines. Et là, en plus, c'est un partenariat que j'aime beaucoup parce que ça va abonder la fédération un petit peu. Bon, ça, on est dans les échecs, hein, on parle pas de millions d'euros, hein. Ça va abonder la fédération, mais ça va aussi retomber sur les 900 clubs, ça va aussi retomber sur le territoire. Donc là, c'est un double partenariat très intéressant, j'espère qu'il va se réaliser. Et mais bon, en tout cas, ça, c'est une énergie folle, folle, qui est dépensée à la fois par le président, Diego Salazar, à la fois par moi en ce moment et par Stéphane Réau, directeur général. Alors, lui, c'est plus sur le côté administratif, finance. Il a la ta difficile tâche et délicate de genre, plutôt réduire, hein, tout ce qui est dépenses et nous de chercher des autres partenaires. Mais c'est une énergie folle dépensée sur ça. Et pendant ce temps-là, c'est énergie qu'on ne met pas sur le développement du jeu, quoi. Donc, voilà. Donc si on a des gens qui veulent nous rejoindre, qui ont fait fortune ou pas, qui sont à la tête d'entreprise, appelez-nous parce qu'il y a des choses fantastiques à faire dans les échecs, des projets de développement, des projets sur les événements, de la visibilité sur les événements. Maintenant, on est sur Internet, on est l'un des sports les mieux diffusés sur Internet, et on voit le nombre de vues maintenant qu'on a sur nos vidéos, sur les parties en direct et tout. Et ils peuvent nous rejoindre, ils peuvent trouver leur compte aussi, ces gens qui sont issus des échecs. Si les échecs vous ont apporté quelque chose, ben vous pouvez un petit peu rendre aux échecs maintenant que, voilà. Je voulais finir par ça.
Voilà, donc le message est lancé. Merci, merci Christophe, hein, d'être intervenu sur Fréquence Diagonale. Donc, ben, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Donc, je vais vous laisser avec notre générique fétiche, hein, sur Fréquence Diagonale, Broken Embraces. Et donc, je vous dis au revoir, à une prochaine fois.